Chapitre 4. La vérité à soi.
Pour faire face à son histoire, il faut accepter d'identifier, sur le plan rationnel, les manques de son enfance et les blessures associées, sur le plan émotif. Accepter aussi de revisiter ses émotions et les souffrances qui en découlent pour les évacuer. Et enfin cesser de croire, à jamais, que l'autre détient la réponse à ses maux. Tant que l'individu ne travaille pas à mieux se comprendre, tant qu'il n'arrête pas de blâmer l'autre, le passé reste la marque de son impuissance. Je veux croire que la puissance est alors dans le présent, pour vaincre les fantômes du passé. De fait, je le constate tous les jours, lors des psychothérapies et des médiations que j'anime. Et malgré ce qu'en pensent certains, la faiblesse est de choisir de rester loin de soi et de refuser sa vérité familiale. La force consiste bien alors à accepter la nécessité de la psychothérapie pour être aidé. Il faut être fort, en effet, pour faire le bilan de ses manques et de ses douleurs d'enfant.
Faire tomber les résistances.
Le mieux-être est dans une attitude de vérité à soi. D'abord, dans la reconnaissance de sa résistance comme symptôme global d'une attitude défensive. Oui, je suis défensif. Ensuite, en trouvant à travers quel mécanisme s'expriment ces défenses. Le refoulement, la projection, le déni, la régression, etc. Il est très engageant pour une personne d'accepter de se rendre vulnérable en laissant tomber la haute muraille de défense qu'elle a construite pierre par pierre au cours de longues années de vie. Ce démolissage, avant de rebâtir, ne peut s'effectuer qu'avec l'aide bienveillante d'un psychologue compétent et empathique, car celui-ci connaît bien les troubles des carences affectives de l'enfance. Dans cette démarche thérapeutique, le psychologue doit guider la personne tout au long de ce processus complexe et sensible, véritable mouvement libérateur qui transforme radicalement les relations à soi et aux autres pour offrir une toute nouvelle perspective de vie.
Choisir le camp de la vérité à soi.
À l'âge adulte, si le mensonge demeure, il ne devrait être que social, c'est-à-dire naître dans des contextes où il s'apparente plutôt à une norme sociale de politesse dans le vaste champ de « ce qui ne se dit pas ». Si j'endosse tout à fait le caractère acceptable du mensonge sur le plan social, pour en quelque sorte prendre soin de la relation à l'autre, je le réfute avec force sur le plan individuel pour affirmer que le mensonge à soi est extrêmement néfaste et compromet gravement l'équilibre et le bien-être intérieur. Si l'individu se doit toujours la vérité à soi, il n'a pas à tout dire, à tous et en tout temps. Difficile, au cours de la vie, de choisir son camp entre la volonté d'être vrai dans ses interactions à soi et aux autres et les risques de crise et de bouleversements majeurs en révélant la vérité à soi et aux autres. À vouloir regarder la vérité sur soi en face, impossible ensuite de faire comme si elle n'existait pas et de maintenir l'évitement. Pour un temps, cette ouverture à une nouvelle compréhension de soi peut sortir l'individu de sa vieille zone de confort, le déstabiliser, mais c'est là un espace transitoire nécessaire pour accéder progressivement à un nouveau soi plus vrai et moins souffrant.
Un soi en mouvement.
L'équilibre s'appuie sur une fondation solide, et même s'il est vécu pour un temps, il ne doit pas être une excuse pour éviter les remises en question et adopter une position de repli face à la vie. Son maintien implique intimement d'en voir les fluctuations. Il serait aliénant de croire qu'à l'équilibre d'une période de vie succédera forcément l'équilibre de la suivante. Seules les crises nous bousculent et nous poussent en avant, l'équilibre subséquent n'est qu'un répit de durée variable. Il n'est qu'à voir au quotidien combien les échanges amoureux, familiaux et amicaux, les nouvelles rencontres, les scènes de vie auxquelles on assiste, les informations que l'on reçoit de toutes parts, confrontent nos idées et nos valeurs. Ces stimulations si variées impliquent une somme incalculable de réflexions en fonction du filtre de notre personnalité. En réponse à ces expériences, ne pas se mentir revient à accepter de remettre en question nos convictions, de réévaluer ce que l'on a toujours tenu pour acquis, d'admettre ce que l'on sait de soi et de ceux qui nous entourent. Tous les individus qui vivent dans cette authenticité peuvent témoigner du soulagement instantané que génère l'acceptation de qui l'on est, délesté du bagage trop lourd, de la dissimulation et de l'éloignement de soi.
Les pleurs de joie n'existent pas.
À l'occasion d'un événement heureux, comprenant perturbant sur le plan émotif, certaines personnes ne contiennent pas leurs pleurs et concluent avec une expression de gêne « ce n'est rien, ce sont des pleurs de joie ». Ces pleurs de joie constituent un bel exemple de la complexité et des voies parfois détournées, empruntées par l'inconscient pour exprimer certaines émotions. Je suis stupéfait d'observer dans le quotidien de ma pratique l'ampleur des dommages perpétrés par les manques affectifs dans l'enfance, et particulièrement sur l'estime de soi, à tel point que lorsqu'ils sont devenus adultes et font la rencontre de quelqu'un qui leur accorde de l'attention et les valorise, ces individus s'effondrent, pleurent ou sabotent et fuient. En fait, si les personnes pleurent, ce n'est pas de joie, mais bien de tristesse. La joie, elle, devrait s'exprimer avec des rires et des sourires. Ainsi, il y a toujours de la tristesse dans les pleurs de joie, en particulier lorsqu'un événement heureux ravive, inconsciemment ou non, la douleur d'un manque significatif de l'enfance. Quels sont les pleurs de cette mère qui retrouve son fils après une longue absence ? Serait-ce que ces retrouvailles rappellent aussi douloureusement le déchirement de la séparation ? Serait-ce que ces retrouvailles évoquent aussi les souvenirs tristes des retours d'école de sa lointaine enfance où personne n'était présent pour l'accueillir ? Lors des prochains pleurs de joie, je vous invite plutôt à essayer de trouver quelles pourraient bien en être les origines. Se questionner en ce sens offre l'occasion d'une perspective nouvelle et peut permettre d'accéder à une réalité intérieure bien présente, mais probablement encore inconsciente. L'objectif ? Être proche de ce que l'on vit intérieurement et se libérer de tristesse qui parasite les instants simples de bonheur du quotidien pour en profiter pleinement avec une intensité sans limite.
Avoir foi en soi.
Je crois profondément en la valeur de l'individu et en sa capacité d'apprendre à prendre soin de lui plutôt qu'en celle d'un groupe qui suit les règles qu'on lui souffle et auxquelles il doit se conformer. En thérapie, l'individu est au cœur de sa propre solution et construit les modalités de la définition de son bonheur. Entrer en thérapie, c'est comme entrer en religion. Il faut avoir la foi. La vérité de chacun, c'est ce moment où la personne met des mots sur ses mots, M-A-U-X, chuchote en elle les premières phrases de la reconnaissance sur ce qu'elle sait depuis toujours, sans faux fuyant, des mots crus, dépouillés de tout artifice, des mots vrais. Je ne me suis jamais senti aimé. J'ai été négligé, j'ai été battu, je méprise mon entourage, je hais mes parents, je ne veux pas de mon enfant, j'ai honte de ma famille, je me sens faux, je ne vaux pas grand-chose, etc. Et si vous tentiez l'exercice, si vous verbalisiez une fois pour toutes, en toute sincérité, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous inquiète de vous. Sans ordonner vos idées, sans contrôler vos pensées, qu'est-ce qui vous viendrait spontanément à l'esprit ? Se parler ouvertement. La démarche paraît si simple en soi, pourtant il n'en est rien. Bon nombre d'individus en sont d'ailleurs dépossédés depuis leur plus tendre enfance. Dans les familles dysfonctionnelles notamment, toutes les structures ont été méticuleusement posées pour inculquer à l'enfant toute absence de contact avec lui-même.
Un jardin secret bien clôturé.
Durant la thérapie, je m'efforce systématiquement de permettre à chaque individu de se réserver un espace intime et de déterminer avec une conscience nouvelle ce qu'il est sain et acceptable de dévoiler et de ne pas dévoiler de soi. Ainsi, chacun établit le périmètre de son jardin secret. Terrain glissant parfois, il n'est pas du tout évident pour chacun de concevoir avec discernement la nécessité d'un lieu à soi où, par définition, l'autre n'a pas accès. Or, c'est un préalable essentiel à l'épanouissement personnel et à la disponibilité envers un partenaire futur ou actuel. Ce lieu est peuplé d'expériences réelles et fantasmatiques. Dans les expériences réelles, il y a les moments particuliers, les périodes de vie qui ont été significatives, véritables images et sensations chargées d'émotions sensibles et d'empreintes profondes. Mais dans le jardin secret, le réel côtoie aussi les fantasmes, ces représentations imaginaires au cœur des désirs conscients ou inconscients. Le propre du fantasme est de faire sauter les limites et de sortir pour un temps des carcans du surmoi, cette structure interne qui censure, juge et condamne. Avec le fantasme, tout est possible et telle est bien sa fonction libératrice. Il est donc très sain de fantasmer et de laisser libre cours à sa pulsion créatrice, que les fantasmes soient sexuels, des rêves diurnes, des réalisations artistiques, etc. Cela dit, tous les fantasmes ont leur raison d'être, tant qu'ils ne sont pas vécus.
Dire enfin à ses parents.
Souvent, les adultes ne se sentent pas libres de dire à leurs parents combien certains comportements, combien certaines phrases assassines et certaines attitudes les ont profondément blessés. En vérité, un interdit puissant est installé en eux depuis l'enfance. Tu n'as pas le droit de remettre en question mes paroles et mes comportements. Tu me dois le respect, je suis ta mère, je suis ton père. Pour être enfin adulte, il est temps de lever l'intimidation parentale. Il est bon de pouvoir clarifier ses difficultés avec ses parents, de faire le bilan, notamment avant qu'ils ne décèdent. Certains parents chercheront à dissuader leur enfant de révéler ces émotions qu'il confie pour la première fois. Il faudrait alors les arrêter. Personne n'a le droit de dissuader un enfant, même devenu adulte, de dire ce qu'il a ressenti ou ressent encore. Pour se réajuster dans cette dynamique familiale et relationnelle, il est temps de s'ouvrir, d'abord à l'écoute et ensuite à l'échange dans le respect. Cela devrait être l'occasion d'un enrichissement de la relation, l'occasion d'accepter de la redéfinir pour répondre aux demandes légitimes de l'enfant, même si cette relation convenait déjà aux parents.
Noël, plaisir ou obligation ?
Noël est le prétexte à bien des mensonges aux enfants et je réalise systématiquement dans mon bureau de consultation combien cette fête se charge de douleurs passées et présentes dans un marasme émotif qui rend les personnes souffrantes, confuses, ambivalentes, prisonnières d'une tradition qui les contraint plus qu'elle ne les rend heureuses. Et si Noël était plutôt l'occasion de grandir ? Un conseil à ceux qui sentent pointer l'anxiété aux alentours de Noël. Le moment est à la fête, non aux obligations. Pour tous ceux qui vivent ce temps avec grand bonheur, dans une famille où chacun est respecté et sait se tenir, pas de problème. Par contre, si vous allez fêter en famille la mine basse, en sachant que, comme toutes les années, ce sera un moment douloureux ou à grand risque de dérapage, il serait sain de vous demander ceci. Pourquoi allez-vous faire mal une fois de plus ? Pourquoi ne pas éliminer définitivement de votre vie les Noëls de souffrance et les autres fêtes remplies d'hypocrisie ? Seriez-vous heureux de découvrir, par exemple, que vos enfants se sentent obligés de fêter Noël avec vous, ou préféreriez-vous plutôt la spontanéité et la volonté profonde de leur présence ? Il en est de même pour vous. Peut-être serait-il temps de vous accorder ce droit d'être enfin un adulte plein de maturité qui choisit pour lui et sa famille.